commence ce journal, Antoine, avec une étude parue dans Nature Astronomy. On en sait désormais plus sur la grande perte d'éclat de l'étoile Bételgeuse.
Oui, survenue en 2019, cette grande perte d'éclat de la supergéante rouge située dans la constellation d'Orion avait provoqué la surprise chez les astrophysiciens et plusieurs hypothèses avaient été avancées. Parmi ces hypothèses, celle du refroidissement total ou partiel de l'étoile ou encore celle de la formation de poussière cachant l'étoile restaient les plus plausibles. L'an passé, une étude française parue dans la revue Nature allait dans le sens de cette formation de poussière grâce aux observations du Very Large Telescope au Chili. C'est désormais confirmé grâce à cette toute nouvelle étude conduite par des chercheurs japonais qui ont eu la bonne idée d'avoir recours au relevé d'un satellite météo pour analyser Bételgeuse. Miguel Montargès est astrophysicien au laboratoire d'études spatiales et d'instrumentation en astrophysique à l'Observatoire de Paris. Il était responsable de l'étude parue dans Nature l'an passé et il se réjouit de ces nouveaux résultats.
Donc ils ont utilisé un satellite météo qui regarde notre planète, la Terre, et plus particulièrement la région pacifique autour du Japon. Et il se trouve que Bételgeuse a le bon goût d'être proche de ce qu'on appelle l'équateur céleste, c'est-à-dire la projection sur le ciel de l'équateur de la Terre, ce qui fait que tous les 1 jour et demi, elle est dans le champ du satellite, elle est sur ce qu'on appelle le limbe de la Terre, donc au bord du disque de la Terre. Et donc c'est là que ça devient exceptionnel, c'est que ça leur a permis d'avoir les meilleures observations en termes de cadence d'observation de Bételgeuse pendant la grande perte d'éclat. Et cerise sur le gâteau, ils ont 16 filtres différents qui partent du visible, donc à peu près de la couleur verte, qui va jusqu'au rouge, l'infrarouge proche et jusqu'à l'infrarouge moyen à environ 10 microns. Alors évidemment, ils voient la perte d'éclat en visible, comme nous on a pu le voir avec nos propres yeux. Ils voient ce que j'avais aussi écrit dans mon article il y a un an, qu'en infrarouge proche, donc 1 ou 2 microns, il y a très peu de variation de luminosité, ce qui suggère qu'il n'y a pas eu changement de taille de l'étoile. Par contre, ils voient qu'en infrarouge moyen, donc autour des 10 microns, il y a une augmentation de la luminosité quand elle est au plus faible en lumière visible. Et donc, ça corrobore ce que j'avais sorti dans mon papier Nature l'an dernier, c'est qu'effectivement, il y a eu de la formation de la poussière devant l'étoile. Pourquoi ? Parce que 10 microns, c'est la longueur d'onde où va rayonner la poussière en raison de sa température. Maintenant, la vraie question, c'est pourquoi c'est arrivé ? Ou exactement comment la poussière a pu se former ? Pourquoi ce nuage de gaz dans lequel s'est formée la poussière est arrivé là où il était devant l'étoile, puisqu'il a été éjecté par l'étoile. Donc on ne connaît pas les mécanismes physiques à l'origine de ça. Et ensuite, il y a une autre question qui est assez troublante, c'est pourquoi on ne voit ça sur Bételgeuse que maintenant ? On l'observe en continu depuis quasiment 200 ans, cette étoile. Jamais nous n'avions vu une baisse d'éclat aussi importante. Et là, on parle de Bételgeuse, c'est une supergéante rouge parmi d'autres. On n'a pas observé le même genre de phénomène sur d'autres étoiles, parce que même si c'est rare dans la vie d'une supergéante rouge, vu qu'il y en a plein le ciel, bah, statistiquement, on devrait le voir aussi ailleurs. Donc tout ça pose la question du mécanisme physique qui est à l'origine du phénomène et de la fréquence à laquelle il arrive. Et donc, il faut qu'on continue à observer des supergéantes rouges pour comprendre comment peuvent se former ces fameuses poussières d'étoiles qui sont aussi les particules qui nous composent.
Voilà, et pour tout savoir sur Bételgeuse, on vous a reposté non seulement l'émission que nous y avions consacrée, et puis évidemment le lien vers l'étude de Nature Astronomy sur notre fil Twitter @lametodefc, et tout ça sera également publié sur la page Facebook de sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et on passe au bref. Selon une enquête parue dans JAMA Network Open, la fin de la surconsommation d'antibiotiques n'est pas pour demain.
Oui, et cette enquête a confronté 551 cliniciens nord-américains à des scénarios de soins. L'un de ces scénarios mettait en scène un patient de 65 ans atteint de bactériurie asymptomatique, une pathologie caractérisée par la présence d'un grand nombre de bactéries dans les urines. Si les directives sanitaires américaines stipulent qu'en l'absence de facteurs de risque spécifiques, un patient dans cette situation ne devrait pas recevoir d'antibiotiques, l'enquête révèle, elle, que 71% des cliniciens participant au questionnaire prescriraient des antibiotiques dans ce type de situation. Alors que l'antibiorésistance cause chaque année plus d'1 million de décès, la route s'annonce donc encore longue pour la réduction de la prescription d'antibiotiques.
En bref, toujours, des passages viennent d'être découverts dans un temple péruvien vieux de 3000 ans.
Il s'agit du temple Chabin des Huantar, situé dans les Andes. Au moins 35 passages souterrains reliés entre eux ont été découverts par les archéologues. Ces passages dateraient d'avant la construction des galeries labyrinthique déjà connu pour ce temple. Effet surprenant, tous ces passages sont reliés entre eux et présentent des formes de construction encore jamais vues. Les archéologues ont également découvert un bol cérémoniel sculpté et une statue de condor. Ce site aurait donc clairement servi de lieu de culte.
Et pour finir, l'ajout d'un pigment de tomate au panneau solaire augmenterait leur efficacité.
Oui, c'est ce que montre une étude parue dans Advanced Energy Materials. Cette substance qui donne aux tomates leur couleur rouge s'appelle le lycopène. Quand la peau humaine est exposée aux UV, le lycopène alimentaire se lie aux radicaux libres produits par les rayons ultraviolets pour protéger les tissus cutanés des dommages. Selon l'équipe chinoise responsable de l'étude, l'intégration de ce pigment aux cellules perovskites des panneaux solaires augmente de 3 à 4 points de pourcentage absolu le rendement de conversion de ces cellules de panneaux solaires.